Les matins de France Culture. Jean Lemarie.
La question du jour. Bonjour Marguerite Caton.
Bonjour Jean, bonjour à tous.
Pesticides et santé aujourd'hui.
Et tout un monde de contradictions alors que les députés examinent en ce moment la loi Duplon qui prévoit de réautoriser certains insecticides. De nombreux médecins et scientifiques alertent sur les maladies liées à ces substances. Et l'ANSES même, l'Agence de sécurité sanitaire, vient de mettre en évidence des liens avec les troubles du neurodéveloppement et du comportement chez les enfants. Ce matin, c'est une synthèse des risques associés aux différents produits sanitaires que nous allons tenter grâce à vous, Ori Yamada. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le responsable de la phytopharmacovigilance à l'ANSES, qui est donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Je voudrais d'abord qu'on parle de l'exposition aux pesticides. C'est un terme un peu flou qui ne nous dit pas comment il nous touche, par la manipulation, la respiration, l'ingestion alimentaire.
Oui, tout à fait. L'exposition, elle peut survenir principalement par ces trois voies-là. Donc, on parle de l'exposition par voie cutanée, hein, par contact cutané. Ça va survenir surtout quand on utilise les produits, au moment où on manipule les produits. L'exposition par inhalation, alors c'est également surtout quand on utilise des produits, en particulier dans des espaces fermés, comme dans des serres ou au domicile, quand on utilise des insecticides. Et puis l'exposition par ingestion, quand on mange des aliments ou quand on boit de l'eau.
On imagine donc que les agriculteurs sont les plus touchés, leurs familles, les habitants des zones rurales, mais aussi tous ceux qui ne mangent pas exclusivement des produits de l'agriculture biologique. Est-ce qu'on sait mesurer, Ori Yamada, les différents taux d'imprégnation par catégorie de population ou en fonction des territoires ?
Oui, tout à fait. Vous avez bien cerné les différents types de populations qu'on étudie quand on parle d'exposition aux pesticides. Et en premier lieu, les plus exposés, ce sont évidemment les professionnels de l'agriculture qui utilisent ces produits pour protéger leur culture. Et donc, comme je le disais, ils vont être exposés principalement par voie cutanée au moment où ils vont manipuler ces produits. Il y a également une exposition un petit peu par inhalation au moment de cette manipulation. Ensuite, il y a la population générale qui va surtout être exposée par l'alimentation et par l'eau du robinet, qui peuvent toujours contenir des résidus de pesticides à des taux plus ou moins élevés. Et puis enfin, il y a cette population particulière qui vivent à proximité des cultures qui sont traitées, qui peuvent avoir leur environnement qui est contaminé par les traitements qui sont réalisés aux alentours.
C'est ce qu'on a vu récemment, je crois, dans la plaine d'Aunis en Charente, où il y a une alerte très importante sur les cancers pédiatriques.
Oui, tout à fait. Donc, dans cette région-là, il y a des études qui sont en cours pour déterminer s'il y a des excès de cas de cancer pédiatrique et ensuite déterminer les facteurs de risque qui peuvent expliquer la surincidence de ces cas.
Un mot des substances que la loi Duplon, donc, qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, veut réintroduire. L'acétamipride, le thiaclopride, le thiaméthoxam, ce sont trois néonicotinoïdes interdits depuis 2018. Alors, on connaît les effets de ces substances sur la biodiversité, sur les abeilles notamment, mais que sait-on de leurs effets sur la santé humaine ?
Alors, tout à fait, ces substances, cette famille chimique de substances, des néonicotinoïdes, et surtout réputée toxique pour la biodiversité et en particulier pour les insectes pollinisateurs. Par contre, pour la santé humaine, il y a très peu d'études épidémiologiques qui ont porté sur ces substances-là. Et pour preuve, dans l'expertise collective INSERM sur laquelle nous avons travaillé et dont nous avons publié une analyse il y a 15 jours, ne ressortent pas cette famille de substances. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne présentent aucune toxicité pour la santé humaine, c'est juste que les études épidémiologiques ne se sont pas penchées sur ces substances ou n'ont pas mis en évidence à ce stade d'effets indésirables pour la santé humaine.
C'est-à-dire on n'a pas cherché ou on n'a pas trouvé après avoir cherché ?
Alors c'est un petit peu des deux. En ce qui concerne les effets sur les pollinisateurs, il y a eu beaucoup d'efforts de recherche dans les années fin des années 2000, dans les années 2010, avec beaucoup de financement et donc il y a eu énormément d'études qui ont été publiées. Si bien que je vous parlais tout à l'heure de l'expertise collective INSERM sur les effets des pesticides sur la santé humaine. Alors il y a eu un équivalent qui a été publié en 2022 par INRAE et IFREMER qui portait sur les effets des pesticides sur la biodiversité. Pour le coup, nos collègues d'INRAE et IFREMER ont rassemblé l'ensemble des données qui portaient sur les effets des néonicotinoïdes sur la biodiversité. Et là, elles étaient nombreuses et donc... Évidemment, il y a des effets démontrés sur les pollinisateurs et la biodiversité de façon plus générale.
Je crois que sur les pollinisateurs, ce sont des substances qui attaquent le système nerveux, si j'ai bien compris, vous me direz, Ori Yamada. Est-ce qu'on ne peut pas supposer que ça aura le même effet sur nos systèmes nerveux ?
Alors, ce sont des choses qui sont étudiées également a priori à travers des tests toxicologiques. Et quand une substance, de façon générale, bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, c'est qu'elle a passé avec succès les différents tests et donc les effets n'étaient pas démontrés. Donc pour les substances, vous parliez de substances qui pourraient éventuellement être réautorisées en France, la condition c'est qu'au niveau européen, ces substances bénéficient d'une approbation, donc ce qui est le cas encore pour quelques néonicotinoïdes ou pseudo-néonicotinoïdes, c'est-à-dire des substances qui présentent un mode d'action similaire, donc bénéficient encore de cette approbation au niveau européen.
Ce qu'il faut dire, Ori Yamada, c'est que votre responsabilité à la tête de l'unité de phytopharmacovigilance, c'est d'évaluer les effets des produits autorisés. Donc vous intervenez après la mise sur le marché. Et récemment, vous avez émis une alerte très importante sur une famille d'insecticides, les pyrétrinoïdes, qui servent à tuer araignées, tiques, moustiques. Alors voilà, essayez de nous expliquer quels effets vous avez constatés.
Alors en effet, contrairement aux néonicotinoïdes qui sont vraiment absents de cette synthèse de l'INSERM que nous avons analysée, la famille chimique des pyrétrinoïdes pour le coup sont extrêmement citées, est extrêmement citée dans cette synthèse de l'INSERM, c'est ce que nous mettons en évidence. Et donc il y a lors d'une exposition prénatale, de la mère pendant sa grossesse et donc exposition du fœtus. Ensuite, à l'enfant à naître, il y a des troubles neuropsychologiques type anxiété ou des retards de développement moteur qui ont été observés dans les études épidémiologiques.
Ce sont des produits très courants, je crois.
Exactement. Donc, ce sont des produits, les pyrétrinoïdes, qui sont utilisés vraiment pour des usages très variés. Donc, en premier lieu, en agriculture, pour protéger les cultures. Aussi en lutte antivectorielle, donc c'est-à-dire les moustiques vecteurs de maladies, tels le moustique tigre vecteur de la dengue ou du chikungunya. Donc on utilise aussi les pyrétrinoïdes pour lutter contre ces moustiques. Et enfin, on utilise ces produits au domicile, en tant que particulier, pour lutter contre les insectes rampants et volants. Et on avait réalisé une étude il y a quelques années, l'étude Pestium, qui avait montré vraiment l'utilisation très fréquente par les particuliers de ces produits.
Est-ce que le consommateur peut vérifier la composition de son anti-moustique ou de son anti-araignée à domicile et voir marqué pyrétrinoïde et se dire « Ok, j'achète pas ». Il n'y a pas d'obligation d'information.
Si. Alors sur les étiquettes qui sont accolées sur les produits, y compris pour les particuliers, il y a la composition en substance active, donc pas la composition intégrale, mais la composition en substance active. Et donc, en l'occurrence, s'il y a un pyrétrinoïde, la mention se figurera sur l'étiquette des produits.
Un dernier mot rapidement, Ori Yamada, sur les autres maladies, cancer du sang, du pancréas, de la prostate, maladie de Parkinson, qu'on met en relation avec les pesticides et les insecticides. Quel lien peut-on faire précisément ?
Alors ces liens pour ces maladies-là, cancer du sang, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, ce sont les maladies pour lesquelles l'INSERM a établi un niveau de présomption de lien fort, le plus fort. Donc c'est vraiment des choses qui sont établies par les données épidémiologiques, et si bien que pour les expositions professionnelles, pour les travailleurs qui utilisent ces produits, des tableaux de maladies professionnelles ont été créés et donc preuve que vraiment ce lien est reconnu et donc derrière facilite la réparation pour ces travailleurs qui ont pu être exposés et développer ces maladies.
Et peut-être un jour la prévention aussi. Merci beaucoup, Ori Yamada.